Ça s'appelle Au détour d'une rencontre.
C'est une émission qui vous propose de partir
à la rencontre d'une personne, d'un collectif,
d'un engagement, d'une réalité de vie.
C'est une émission qui parle des autres,
de soi,
qui questionne ce que nous sommes,
ce qui est,
ce que nous faisons.
Serge Danet, critique de cinéma, notamment au Cahier du cinéma et à Libération, est mort en juin 92, à tout juste 48 ans. Pour évoquer son parcours de cinéphile, ou plutôt de ciné-fils, selon sa propre formule, j'ai rencontré Pierre Eugène, enseignant et critique, auteur de l'ouvrage « Exercice de relecture », Serge Danet, 1962-1982. Avant de démarrer cet entretien, écoutons d'abord Danet lui-même, en 1992, quelques mois avant sa mort.
Alors, moi je suis né dans le quartier où je vis aujourd'hui, donc c'est une belle fidélité à Paris, même pas à tout Paris, un quartier de Paris qui est 11e, 12e. Je suis né à l'hôpital Saint-Antoine. Je n'ai pas connu mon père qui a traversé la vie de ma mère, disons, un peu comme un aérolite et qui a été arrêté par les Allemands début 44. Donc moi, je n'ai eu qu'une légende à laquelle je me suis d'ailleurs finalement assez bien conformé. Comme tous les cinéphiles, j'étais un bon fils, même par procuration. Mais j'ai donc grandi, élevé par des femmes, ma mère, ma grand-mère, un peu ma tante.
En quelle année vous êtes né ?
En 44, donc fin des années 40, début des années 50, dans cette France, dans ce Paris encore très pauvre, nous, famille vraiment très très pauvre, tout petit bourgeois, assez heureux, enfant un peu gâté, enfant désiré,
enfant unique.
Unique, archi unique, avec tous les défauts de l'enfant unique, avec un sentiment double, parce que j'y pense beaucoup maintenant, évidemment, je pense toujours un moment à son enfance. D'un côté, quelque chose n'allait pas profondément, mais n'allait pas peut-être dans mon environnement, dans la France, dans ce que je sentais autour de moi, dans la société des années, début des années 50, et puis quelque chose de personnellement, alors affectivement, émotivement, plutôt heureux, parce que être désiré pour un enfant, même s'il naît comme petit pauvre, c'est formidable. Donc voilà, moi j'ai grandi... dans cette France de la Bastille, de la place Voltaire, qui n'était pas encore place Léon Blum, et de cette flopée de cinémas de quartier, qui ont quasiment tous disparu, qui était la destination normale vers laquelle on allait dès qu'on sortait de chez soi.
Bonjour Pierre-Eugène, on vient d'entendre la voix de Serge Danet. Quelle réaction après cette voix de 92, quelques mois avant sa mort ?
Écouter la voix de Danet, c'est toujours une expérience un peu étrange pour moi parce que c'est pas par sa voix. Beaucoup de gens l'ont découvert par sa voix et par son image dans les... Donc là, c'est un entretien à la radio, mais ce qui est plus connu, c'est Itinéraire d'un cinéphile, qui sont une série de 3 émissions qui ont été diffusées pour certaines en prime time à la télévision peu de temps avant la mort de Danet. Et c'est vrai que moi, quand j'ai découvert Danet, c'est par la lecture, c'est par ses livres, et c'est par un livre qui s'appelle « L'exercice a été profitable, monsieur », qui n'est même pas vraiment un livre de critique de Danet, mais quelque chose qui ressemble à un journal intime avec des idées, des fragments de citations, des événements de la journée, enfin voilà, une sorte de journal intime du cinéma. Et en fait, cet ultra présent de Danet est, je pense, ce qui l'a un peu marqué pour moi, en tout cas, cette manière de saisir le cinéma en direct, alors que, en fait, pour beaucoup de gens, je pense, et je raconte ça parce que ça va être aussi un peu au cœur du travail que j'ai fait sur lui. Pour beaucoup de gens, c'est à travers sa figure et son autobiographie, cinébiographie du cinéma, où il fait ce grand moment de retour sur lui-même quelques mois avant sa mort, en fait autour de 91-92, se sachant condamné par le sida et à l'époque sans traitement. Donc il fait ce grand moment de retour sur lui, ce grand moment un peu mythologique en fait, et donc il va se concrétiser dans cette émission de radio dont on vient d'entendre un extrait, dans Itinéraire d'un cinéphile, donc la série de 3 émissions où il discute avec Régis Debray, et un livre, Persévérance, où il échange avec Serge Toubiana et dont il a écrit le premier chapitre. Et ces textes-là, ces textes oraux, en fait, sont aussi l'écriture d'une histoire, d'une mythologie. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler sur lui, je ne savais pas grand-chose de ce que j'allais faire. Je me suis entré là-dedans de manière assez candide. Donc, pour ce travail, qui était un doctorat, une thèse. Mais avec quand même une idée, c'était un peu d'aller contre la mythologie que Danet lui-même avait écrite et qui reste peut-être ce qui est le plus connu de son œuvre, finalement. Le livre que j'ai fait, qui finalement est sorti de cette thèse, j'ai voulu l'intituler à un moment « Les années non légendaires de Serge Danet ». Donc, voilà, d'une manière un peu consciente, ce qui m'a intéressé dans ce livre et ce qui m'intéresse quand même beaucoup chez Danet, c'est son goût du présent, plus que sa capacité à refaire des histoires, et qui, elle, est beaucoup plus présente, effectivement, dans la fin des années 80, début des années 90, pour des raisons donc liées au sida, liées à sa conscience d'une sorte de sa propre fin et d'une fin des temps, qui est sans doute la chose peut-être la plus contestée aujourd'hui, en tout cas de ce qu'il nous lègue, c'est-à-dire quand il parle de la mort du cinéma, par exemple. Mais sinon il y a ce fil quand même de faire tout le temps avec le présent, avec les films qui passent, y compris dans ce moment un peu terminal où malgré tout quand on sort de la dimension de retour sur histoire, qui est parallèlement aussi qu'on trouve chez quelqu'un comme Godard qui commence en 88 ses histoires du cinéma et qui va faire ça pendant 10 ans, donc il y a une forme de synchronie aussi de la part de Danet, de la part, je pense, de beaucoup de gens, puisqu'on parle aussi de la fin de l'histoire, enfin, bon, voilà. Donc, c'est quand même un grand moment de remémoration, et donc Danet participe de ça, envers lui-même, envers le cinéma. Et en même temps, voilà, moi, j'ai travaillé sur l'œuvre de Danet en commençant par le début et avec une sorte de cécité de ce que j'ai appelé une sorte de téléologie provisoire. C'est-à-dire, à chaque fois que j'ai étudié un texte, j'ai fait semblant de ne pas savoir ce qui allait suivre. Et j'ai essayé de me coller autant que possible au présent de Danet. Say love me, leave me, let me be lonely. Le projet de départ était de faire toute son œuvre. Donc d'aller de son premier texte, écrit en 62, jusqu'à son dernier texte, écrit en 92. De son premier texte à son dernier texte, pas de sa naissance à sa mort, en fait, puisque... quand j'ai commencé à travailler sur Danet, une autre chose, qui m'a beaucoup fait réfléchir, c'est la question de la biographie. Est-ce qu'il fallait faire ou non une biographie de Danet, sachant justement que, à partir de sa propre mythologie qu'il avait lui-même construite, sa vie se confondait avec l'histoire du cinéma moderne. C'est comme ça qu'il le dit. Je suis né en 44, l'année de Rome, ville ouverte, de Roberto Rossellini, cinéaste italien, néo-réalisme, cinéma de la modernité de l'après-guerre. Donc, il lance un ensemble de formes cinématographiques complètement innovantes, avec d'autres types d'acteurs, d'autres types de moyens de tournage, une autre économie du cinéma. Donc, Danet collait, encore une fois, de manière assez mythologique, sa propre naissance à celle du cinéma. Et disant, à la fin de sa vie, je meurs et le cinéma meurt peut-être avec moi, ou en tout cas, une certaine hypothèse du cinéma moderne meurt avec moi, en pleine vague du postmodernisme peut-être, ou de la fin du postmodernisme, ou voilà. Donc, ça, c'est un peu le terreau de départ. Donc, est-ce qu'il fallait faire une biographie? Je me suis posé la question. Mais en fait, il n'y avait pas d'études des textes de Danet. Alors, même une biographie intellectuelle qui éclairerait les textes à partir de la vie, ça ne me semblait pas être un bon moyen d'étudier Danet, ce qui me semblait être beaucoup plus intéressant, c'était de partir des textes, comme vraiment, enfin, l'étymologie, tissu, comme un tissu de référence, d'événements effectivement vivants, qui résonnaient avec sa vie, mais qui résonnaient avec un ensemble de choses beaucoup plus vastes que la vie et la personne de Danet lui-même. Je me suis beaucoup posé la question de comment est-ce qu'il fallait faire ce livre, donc qui au départ devait, encore une fois, comprendre tout le corpus, tous les textes que Danet avait écrits, qui sont au nombre à peu près de 1700-1800. Ce qui est beaucoup, et ce qui est en même temps pas énorme pour un critique, puisque quelqu'un comme André Bazin, l'autre grand critique français qui est mort avant que Danet commence à écrire, a lui écrit 2700 textes en 15 ans. Donc voilà, c'est pas, pour un journaliste, c'est pas forcément... c'est un corpus normal, mais ça reste quand même beaucoup de textes, et surtout des textes qui sont extrêmement complexes, en fait, qui sont vraiment, qui sont pleins d'idées, qui sont très forts, y compris le tout premier texte que Danet a écrit à 18 ans sur un film fétiche qui va le poursuivre toute sa vie, Rio Bravo de Howard Hawks, film voilà, un peu de la fin du classicisme hollywoodien. Et il va dire de ce film, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, je le dis de mémoire, mais les grands films comme Rio Bravo, c'est des films qu'on réinterprète au fil de ses intérêts du moment. Donc, ils existent toujours, mais ils n'existent pas dans une forme de permanence absolue, comme des balises, mais au contraire, comme des objets sur lesquels on peut bricoler des choses, ou dans lesquels on voit des nouvelles choses à chaque moment ou à chaque moment de sa vie. Alors, il n'a pas réécrit sur Rio Bravo, en fait. Ça reste, il n'y a qu'un texte, mais il a dû y penser assez souvent, ou il le mentionne parfois. Mais ça montre bien que Danet n'est pas du tout un homme de la progression continue, qu'il n'est pas... qu'il est vraiment dans quelque chose qui est plus proche de l'agencement, quoi. C'est-à-dire, à chaque moment de sa vie, il y a un ensemble de choses qui sont présentes. Il y a de la mémoire, évidemment, de son itinéraire, mais en même temps, il y a beaucoup de mouvements et beaucoup de transformations. Et donc, la période que j'ai finalement traitée, parce que, tout simplement, faute de place, je vais expliquer peut-être un peu pourquoi après, j'ai dû m'arrêter donc en 1982. Donc j'ai fait 62-82, ce qui fait 20 ans, et ce qui correspond du premier article au premier ouvrage publié, La Rampe, qui va sortir en 83, mais qui est terminé en 82. Et déjà, au sein de cet itinéraire, il y a beaucoup, beaucoup de transformations. De sa cinéphilie classique de son adolescence, donc qui donne naissance à cet article sur Rio Bravo, à la découverte du structuralisme dans les années 60, la politisation, le passage au maoïsme, le fait qu'il devienne, en 73, rédacteur en chef des Cahiers, donc il assume de nouvelles fonctions, jusqu'à son départ en 1981 pour le journal Libération, dont il va diriger la rubrique cinéma, donc accéder aussi à un autre lectorat, à une autre manière de parler des films, à un autre rythme d'écriture aussi, où il écrit presque tous les jours. Ça faisait déjà une période extrêmement mouvementée et échangeante, parfois proche quasiment, pas du reniement, parce que Danet a toujours essayé de ne pas le faire, mais voilà, la sortie du maoïsme est un moment un peu compliqué aussi, donc à l'orée 72-74, et ce n'est pas une sortie facile de cette politisation très très extrême, en tout cas intellectuellement parlant, parce que sur le plan pratique, ils n'ont pas fait grand-chose. Voir comment à chaque texte, en fait, quelque chose à la fois se maintient et bouge, c'était le projet de mon travail. Justement, quand on étudie les textes de très près, ce que donc j'ai voulu faire, on se rend compte qu'il y a un peu des périodes avec des stylèmes un peu différents. Quand il commence à écrire ses premiers textes, donc le texte sur Rio Bravo, c'est des textes qui sont très beaux, hein, c'est très impressionnant. Effectivement, c'est des textes, on n'a pas l'impression que c'est quelqu'un qui a 18 ans qui les a écrits. Mais il reste encore pris dans la tradition de la politique des auteurs. Il pioche des idées, voire des expressions, ce que j'ai montré chez d'autres critiques qu'il admire, notamment Jacques Rivette pour Hawks et Romer. Il y a aussi Luc Moulet, cinéaste et critique, donc au cahier, qui sont des gens qu'il admire et dont il va effectivement récupérer en fait certaines idées, voire certaines expressions quand il écrit sur Hawks. Mais au moment structuraliste, il va un peu imiter ou récupérer une forme du lexique donc théorique qui l'entoure. Le lexique maoïste, bon, là, va scléroser clairement une partie des textes qu'il va écrire, mais c'est un moment très court, en fait, c'est 2 ans, hein, à peu près, 72-74. Et ce qu'on va surtout voir, et ce qui fait la reconnaissance de Danet, c'est les articles qu'il écrit surtout à partir de 81 à Libération, où là, il change complètement d'adresse, il change de groupe de travail aussi. Il a atterri dans un journal de gauche, encore très, très pris dans un esprit révérencieux, militant, queer aussi, parce que c'était une équipe queer, l'équipe de Libération, dans laquelle il est arrivé et qu'il a... Voilà, et qu'il a, avec lesquels il a interagi non sans mal, mais dans lequel il s'est trouvé aussi, d'une certaine manière. Il dit, hein, Libération m'a libéré, j'ai constitué un service à 90% homosexuel. En fait, il était déjà à 90% homosexuel quand il est arrivé. Mais voilà, son homosexualité, qui ne s'est jamais exprimée personnellement dans ses textes, va commencer à le faire assez discrètement dans les années 80. Et surtout, l'adresse de ces textes de Libération, elle est beaucoup plus directe, beaucoup plus fraîche. Il écrit quasiment tous les jours. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il dit. Il dit, quand on écrit dans une revue mensuelle, ça alourdit beaucoup l'écriture, on prépare, on retravaille beaucoup ces textes. Alors que quand on écrit tous les jours, au fond, on ne trouve pas grave de rater 2 textes sur 3, puisqu'on sait qu'on va pouvoir se rattraper. Bon. En vrai, il se rate pas quand même beaucoup. Il y a quelques textes sur lesquels je suis moins convaincu, mais il se rate quand même très peu. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est effectivement une écriture très fluide, très légère, très, très dense, toujours intellectuellement, mais où il arrive à faire passer des choses qui avant étaient... où il y aurait eu une citation de Lacan, par exemple. La citation de Lacan, il la digère et il arrive à l'expliquer sans même parler de Lacan. Et donc, il y a une digestion et une souplesse dans les textes des années 80 qui a fait beaucoup quand même pour sa reconnaissance. Outre le fait qu'il s'est adressé à un lectorat plus grand, qu'il écrivait dans un journal, dans un quotidien. Donc, c'est pas du tout la même chose. Et surtout qu'il a commencé à parler à la radio, puisqu'il a eu une émission de radio pendant 5 ans, Microfilm, où il parlait quasiment autant que les gens qu'il interrogeait, qu'il invitait. Et puis après, voilà, les émissions de télévision. Et c'était aussi un grand bavard. Enfin, il y a quelque chose autour de son écriture qui tient de la parole et de quelqu'un qui nous parle. Ce terme de cinéphile, en fait, qu'il a vraiment un peu défendu à la fin de sa vie, en fait, il date de la fin des années 70, où il écrit un texte sur Wenders. Wim Wenders, qui fait un film autour de Nicolas Ray, en train de mourir. Et ce film, donc, qui s'appelle Nick's Movie, Danet fait un très long article là-dessus où il dit que il appelle Wenders un cinéphile et pas lui-même. Mais bon, voilà, il va récupérer ce terme. Et il dit dans ce texte, donc sur Wenders, qu'au fond, il n'y a que 2 problèmes au cinéma, c'est la parenté et l'alliance. Donc la parenté verticale qui traverse les générations et l'alliance horizontale entre les gens. Est-ce que c'est uniquement masculin ou pas? Je ne sais pas. C'est vrai que Danet a peu parlé des femmes ou de... voilà, ou de la question de la mère. Voilà, la question du père l'occupe beaucoup sur la fin de sa vie, mais parce que sa mère est toujours vivante aussi, et sa mère lui a survécu un grand nombre d'années. Sur la question du cinéma fait par des femmes ou autour des femmes, il y a beaucoup de textes de Danet là-dessus. Notamment, c'est un des premiers. Il y a un texte assez intéressant, par exemple, où il interroge la question de la femme chez Godard dans 76. Donc du rapport d'un Godard qui est plus le Godard avec Anna Karina des années 60, mais Godard post-maoïsme, où effectivement il y a beaucoup plus de friction et où le féminisme est très présent. Voilà. Danet va aussi s'intéresser à Chantal Akerman, à Duras. Il va diriger le numéro réalisé par Marguerite Duras des Cahiers du cinéma, un numéro spécial qui s'appelle Les yeux verts, qui est un numéro absolument magnifique. Donc, je pense que c'est pas cette question du masculin et du féminin, elle l'intéresse peut-être comme une forme sémiologique de signe. Et il y a une expression que j'aime beaucoup, que je cite assez souvent dans les textes que j'écris, qui n'est pas issue d'un texte de Danet, mais d'un écrit privé, puisqu'on pourra parler de ça aussi, de ces écrits privés auxquels j'ai eu accès, auxquels je fais, j'ai pas mal cité et utilisé dans mon travail. Et il dit, alors j'essaye de le citer de mémoire, mais il dit le cinéma... est une fabuleuse machine à faire dériver les identités. Et qu'au fond, à les faire dériver plus qu'à les asseoir, plus qu'à essayer de les assigner. Puisque quand on voit un personnage à l'écran, certes, il apparaît comme un homme ou une femme, mais la question de l'identité est beaucoup plus flottante, finalement, que dans la vie. Et il y a un potentiel de transformation par le cinéma qui est très fort. Donc je pense qu'effectivement, cette question de l'identité qui dérive, qui délire, du corps qui insiste et en même temps qui se déprend de l'identité, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de ses textes, alors plutôt de la fin des années 70, mais où la question du corps, de la matérialité est très présente et de ce que Danet peut appeler des corps énigmes. Donc des corps qui nous posent justement des énigmes sur leur origine, leur identité, leur pensée, voilà. Donc, voilà, ce partage autour du masculin, du féminin, je pense que Danet l'a joué un peu comme une carte, mais qu'en même temps, il n'y croyait pas vraiment.
Pierre-Eugène, je voudrais, pour clore cette première partie de l'entretien, qu'on revienne à cette idée formulée par Danet lui-même, selon laquelle la fin de sa vie biologique serait aussi celle du cinéma ou de son cinéma, le cinéma moderne, né comme lui, comme il le dit, à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1944.
Danet était à la fois... c'est drôle parce qu'il oscille toujours entre deux positions. Il dit, d'une certaine manière, je crois à l'histoire, au progrès d'histoire, ou à l'idée que l'histoire avance et qu'il y a des choses qui ne seront plus jamais comme avant. Et en même temps, je me dis, dit Danet, il faut être plus malin, il faut être comme Raoul Ruiz, il faut croire que le cinéma, c'est quand même des spirales, l'histoire, c'est quand même des spirales, et il y a des choses qui ne cessent de revenir. Et qu'en fait, l'histoire fait plutôt des boucles en forme de spirale, donc c'est une boucle, mais c'est un peu différent, et des hypothèses de cinéma qu'on pensait complètement disparues reviennent. Alors lui, il va le voir, par exemple, dans le clip, il va voir le cinéma muet qui apparaît dans le clip, quand il va écrire sur les clips. Aujourd'hui, moi, je dirais, j'avais fait un texte là-dessus, que TikTok, c'est l'équivalent des tout débuts du cinéma, avec Edison, qui filme, pour des boîtes à peep show où on met son œil avec un œilleton, des petites boucles de 1 minute avec des gens qui dansent. C'est pas tellement loin de l'hypothèse de regarder TikTok seul sur son téléphone. Voilà. Donc c'est des hypothèses de cinéma, et au fond, l'histoire du cinéma ne fait que, ou l'histoire des images, se boucle quand même toujours sur des choses qui ont été faites avant. Donc il faut pas être trop dans la déploration, parce que de toute façon, il ne tient qu'à nous de faire revenir ce qui a disparu. Donc le risque qu'il y a, c'est qu'effectivement, à un moment, il n'y ait plus de place pour un cinéma marginal. Il n'y en a déjà plus à la télé depuis Belle Lurette, et qu'il n'y en ait plus que dans, effectivement, des espaces de niche, quoi. Donc ça, c'est le premier truc que Danet assimilait à la mort du cinéma, c'est-à-dire l'hypothèse majoritaire. La deuxième chose que Danet assimilait à la mort du cinéma, c'est la fin de la mise en scène. Donc cette idée que quand même le cinéma a trait à un travail sur un espace avec des corps, pour aller très vite, hein. Et qui, elle, vient vraiment de la tradition des cahiers, de voir le cinéma comme une manière de se confronter à la réalité des corps et à la réalité des espaces. Donc ça, c'est effectivement quelque chose que le postmodernisme, le passage des années 80, où là, l'image se citait elle-même, se mangeait elle-même, les références culturelles et devenaient plus que la nature ou le réel, le matériau de base du cinéma. Et ça, Danet a toujours été très réticent devant ça. Effectivement, les images de synthèse, le maniérisme, tous ces moments que moi, je trouve personnellement intéressants, Danet, lui, était quasiment incapable de les théoriser autrement que comme l'ennemi. Et en tout cas, ce qu'il voyait disparaître, c'est effectivement ce cinéma de mise en scène, ou ce cinéma, l'hypothèse de la mise en scène au cœur du cinéma. Alors, il y a toujours des gens qui en font, mais c'est vrai qu'il y a de moins en moins de films qui s'interrogent sur comment est-ce qu'on fabrique un point de vue, comment est-ce qu'on découpe un espace, une scène, un événement pour nous le montrer d'une manière que personne ne nous l'a montré, et comment finalement on peut filmer des choses qui apparaissent très banales, mais d'une manière extraordinaire. C'est sûr que le cinéma d'aujourd'hui, il m'intéresse et je suis forcé de m'y intéresser puisque j'écris donc dans une revue qui s'appelle Les Cahiers du cinéma, qui est celle de Danet. Donc, je suis quand même pris dans le contemporain, même si je dirais que mon cœur est quand même plus en arrière dans l'histoire du cinéma et j'écris quand même plus sur des films passés que sur des films d'aujourd'hui. Et voilà, mais ça c'est moi. Je veux dire, c'est très personnel quand même. Et pour raisonner avec Danet, sans vouloir me comparer à Danet, ce qui est toujours le risque de cet exercice, Danet disait, ça m'a stupéfié quand j'ai vu ça, dans un carnet de notes, un écrit privé, il disait, je n'ai pas aimé spontanément le cinéma moderne, je me le suis imposé.
C'était Au détour d'une rencontre, première partie de l'entretien avec Pierre Eugène à propos de son ouvrage Exercice de relecture, Serge Danet, 1962-1982. Réalisation, Patrick Rousseau. Raté, parti, je viens, je danse aux choses en vain, mais m'avance. J'en viens manger, dormir, souffler matin. Raté, parti, ma route la même. Ah, 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 je n'ai pas le temps.